7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le féminisme devient-il puritain ? Après la libération sexuelle des années 70 et le droit des femmes à disposer de leur corps, voici le temps de la libération de la parole des femmes sur le harcèlement sexuel et sur le viol dont certaines sont victimes. Et depuis 3 mois, début de l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, il est accusé par une centaine de femmes, mais pour le moment ne fait l'objet d'aucune mise en examen judiciaire. Et les forums, les hashtags MeToo ou Balance ton porc, le débat de société, c'est vrai, ne faiblit pas. 3 mois après, nous donnons la parole avec peut-être davantage de calme, j'espère, à des femmes françaises qui ont toutes signé des tribunes, des textes, en tout cas dans la presse, qui ne partagent pas les mêmes points de vue, mais on l'espère un même objectif, que ces débats servent la cause des femmes, et si possible celle des hommes, dont certains osent, sur ce champ de mine, témoigner d'une certaine perplexité. Les voisins, les voisines, si d'ailleurs vous avez le sentiment que ce débat parti des États-Unis a des répercussions dans votre pays sur les violences sexuelles, sur la façon d'en parler, en tout cas vous pouvez tout à fait nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Alors pour en discuter, Peggy Sastre, philosophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une des auteurs de la tribune du journal Le Monde du 9 janvier sur la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Vous avez publié notamment un livre qui paraît cette semaine, Comment l'amour empoisonne les femmes. C'est davantage sur le dépit amoureux, mais on en parlera parce que, évidemment, ça a une résonance particulière avec cette affaire. Sophie de Menton également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, président du mouvement patronal éthique et également co-signataire de cette même tribune. Dans le studio de RFI, une historienne, Michèle Rio-Sarcey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite d'histoire du genre à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez écrit un autre texte dans le même journal, mais vous souhaitez surtout vous exprimer ici en tant qu'historienne pour apporter une hauteur de vue à travers des travaux de recherche que vous n'êtes pas seule à mener. De nombreux chercheurs, chercheuses travaillent sur les questions de genre, même si c'est vrai qu'en France, la France est un pays qui a eu beaucoup de retard sur les recherches en genre, notamment par rapport aux États-Unis, on en parlera. Ouria Bentouami, philosophe en liaison duplex avec nous à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez et enseignez à l'Université Toulouse Jean Jaurès et vous êtes co-auteur d'une tribune publiée dans Mediapart et vous êtes en effet en liaison technique avec nous grâce aux moyens de France Bleu Toulouse que nous remercions.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Alors tout de suite, soyons concrets, parce que le corps des femmes, certes, s'il fait l'objet de multiples recherches universitaires depuis des décennies, n'est tout de même pas non plus une abstraction. Reportage de l'autre côté de l'Atlantique à l'université de Berkeley, bastion de la contestation libérale depuis les années 70. Les questions de harcèlement sont prises très au sérieux, et cela bien avant l'affaire Harvey Weinstein et le mouvement MeToo. Reportage dans la prestigieuse université californienne d'Éric DeSalve.
C'est le début du semestre à Berkeley. Après les vacances, les cours reprennent dans un contexte nouveau, celui de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo. Son principal bénéfice pour Samantha, 21 ans, étudiante en biologie, c'est d'avoir libéré la parole des femmes jusque sur son campus.
Il y a des gens qui ont dit, lorsqu'une femme parle, d'autres inventent des histoires. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Quand une femme a le courage de parler, ça crée un effet domino. D'autres femmes disent, tu n'es pas seule, je suis avec toi. Moi aussi, j'ai eu une expérience traumatisante. À Berkeley, nous avons aussi été affectés par des scandales d'abus de professeurs hommes sur des étudiantes.
Avec la multiplication des scandales sur les campus américains, la frontière entre drague et harcèlement semble parfois ténue. À Berkeley, le buzz sexe, c'est-à-dire les relations sexuelles sous l'emprise de drogue ou d'alcool, est désormais banni.
La frontière de ce qui est acceptable est floue, en particulier en cas d'utilisation de substances. Le buzz sexe n'est pas consentant et nous prenons cela très au sérieux à Berkeley. Si vous êtes sous l'emprise d'un produit, vous n'avez pas vos esprits. Vous ne pouvez pas donner un consentement clair, enthousiaste. Vous ne pouvez pas avoir une relation sexuelle consentante. Nous considérons que c'est un viol.
Donc à Berkeley, vous considérez qu'une relation sexuelle sous influence de drogue ou d'alcool, même avec consentement, équivaut à un viol?
Oui, je le pense. Évidemment, les lignes ne sont pas super claires parce que je peux être consentante sur le moment et révoquer mon consentement le lendemain si je ressens des remords. Donc, la politique qu'on nous enseigne ici, c'est juste de ne pas avoir de rapport sexuel si on est alcoolisé ou drogué.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ces règles vont parfois un peu trop loin?
Je ne crois pas que cela aille trop loin. C'est un vrai problème pour beaucoup de femmes. Je crois que les chiffres, c'est une femme sur quatre qui a été agressée sexuellement. Presque toutes les femmes que je connais ont été au minimum harcelées sexuellement en rentrant chez elles à pied. J'ai sûrement un gaz lacrymogène parce que dans les rues, des gens vous harcèlent. « Hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me parles pas ?» C'est la norme ici. C'est la norme dans beaucoup d'endroits. Je crois que nous devons apprendre à nos garçons comment respecter les femmes.
Sur le campus de Berkeley, Fraternité et Sororité recrutent de nouveaux membres à coups de musique pop. Ces confréries étudiantes sont connues pour organiser régulièrement d'énormes fêtes, espaces de drague privilégiés, mais une drague de plus en plus codifiée. À l'entrée des soirées, chacun doit maintenant passer par des consent talks, des discussions autour du consentement. Jane, étudiante en commerce de 21 ans, est membre d'une confrérie étudiante.
So basically they ask you questions like, do you know what consent is?
En gros, ils vous posent des questions comme, est-ce que vous savez ce qu'est le consentement? Et ils attendent une réponse du type, oui veut dire oui et non veut dire non. Et ils vous donnent aussi le nom des personnes de l'organisation à prévenir si vous êtes témoin de harcèlement ou d'agression sexuelle.
Les règles de consentement sont-elles appliquées à la lettre à Berkeley? Sur un banc du campus, nous rencontrons Nicolas et Sophie, deux étudiants de 21 et 19 ans. Qui les ont parfaitement intégrés.
So consent is...
Alors, le consentement doit être...
Enthusiastic, verbal.
Enthousiaste, verbal, permanent et donné librement.
Après l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, ces règles ont été renforcées à Berkeley. Est-ce que tout cela a changé en tant qu'homme votre façon d'aborder les femmes et de les séduire?
No, not really.
Non, pas vraiment.
No, no.
The manner of seduction has not changed.
No.
Mes techniques de séduction n'ont pas changé.
Quelle est cette façon de séduire?
Oh, like, I'm very direct.
En général, je suis très direct, mais de façon très respectueuse. Je dirais, est-ce que tu veux aller boire un verre? Est-ce que tu veux sortir avec moi? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais en général, ça prend un peu de temps. Ça n'est pas immédiatement. Ah, tout de suite! Ça prend une, deux ou trois semaines. C'est un peu long.
Vous dites que vous avez une façon de draguer très directe. Où est la frontière entre drague et harcèlement sexuel?
There's a way to basically develop a kind of friendship and for a relationship with people that exists first.
Je pense qu'il faut d'abord créer une sorte d'amitié. Si vous sexualisez tout de suite la personne et que c'est ce que vous lui montrez en premier, genre « Hey, tu m'intéresses, on va boire un verre », etc. Si c'est la première chose que vous dites, c'est toujours problématique, parce que c'est mettre de côté ce qu'est la personne. Il y a une vraie différence entre ces deux approches.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Peggy Sastre, que pensez-vous de ce reportage et de cette codification désormais bien intégrée dans les campus américains des relations garçon-fille?
Je dois dire en fait que ça me rend assez perplexe. Et surtout, il y a un point qui m'a un peu fait sursauter, c'est quand il y a une jeune femme qui dit qu'elle peut révoquer son consentement à tout moment. Et je pense que là, c'est une pente assez glissante dans le sens où soit on prend... le consentement est vraiment très important dans les relations sexuelles hommes-femmes et d'autres orientations sexuelles. Il faut prendre le consentement au sérieux. Et en fait, prendre le consentement au sérieux, c'est justement ne pas être en mesure de se dire le lendemain ou 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard que j'ai dit oui, mais finalement, en fait, je pensais non. Et ça, en fait, on revient, en fait,
Donc, prendre le consentement au sérieux dans les deux sens,
oui.
Et des deux côtés.
Oui, bien sûr. Et ça c'est assez cocasse parce qu'en fait, on revient à une espèce d'idées reçues qui voudraient que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent et donc on peut leur ouvrir cette porte, cette possibilité de révoquer leur consentement. Et je trouve ça vraiment, très alarmant en fait.
Michel Rios-Arce sur ce qui se passe dans les campus américains depuis plusieurs années d'ailleurs. d'ailleurs en réponse à une véritable insécurité sur ces campus américains et à la multiplication des agressions sexuelles à l'encontre des filles principalement.
Je ne sais pas, je ne connais pas actuellement ce qui se passe dans les campus américains, mais je sais parfaitement depuis plusieurs années pratiquement que la question de la réappropriation de son propre corps a été posée dans différents pays. Et contrairement à ce que les médias ont tendance à répondre, c'est en Inde que massivement ça a commencé. Et donc nous sommes très très loin de ces affaires qui focalisent sur des questions qui me semblent relativement privées. Mais la question qui est posée désormais est celle du sujet femme qui s'empare non seulement de sa propre parole, qui parle en son nom, non pas en tant que victime, mais en tant qu'être pensant, comme je l'ai écrit dans Le Monde, et agissant, et qui dénonce en quelque sorte ce qu'est la domination. Fondamentalement, on a tendance à focaliser sur la question de la sexualité, mais ce n'est pas ça réellement le problème. C'est que les femmes, pour la première fois, massivement, sans qu'aucune organisation n'ait pris l'initiative, s'emparent d'une question que tous les mouvements de libération, tous les mouvements d'émancipation collective avaient laissé de côté. En même temps que cette question se pose largement, massivement, il y a en même temps une réflexion sur la domination, sur la nécessité de l'émancipation. Ça se passe aussi dans d'autres domaines, que ce soit sur les questions de racisme, sur la question de l'antisémitisme. À nous de nous emparer de ces problèmes qui sont non pas des problèmes de société seulement, mais des questions éminemment politiques. Alors essayons, s'il vous plaît, de sortir d'une question qui est réellement de l'ordre du privé ou du collectif. Lorsque ça s'exprime massivement, on a vu en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, des femmes s'emparer de la question pour dire « ça suffit ». Notre corps nous appartient. La question d'émancipation commence par là, par le début, comme au XIXe siècle. Au XIXe siècle, depuis déjà donc très longtemps, les femmes exprimaient cette volonté d'être elles-mêmes, à la fois être pensant et agissant, politique, être privée, et ça commençait par cette libération. On ne les a pas entendues. Aujourd'hui, personne ne peut être à l'écart de cette question. Et c'est ça qui me paraît le plus important.
Vous avez raison de prendre le sujet de plus haut. Vous avez parfaitement raison, y compris d'ailleurs, parenthèse, sur l'excision, qui est quelque chose de monstrueux. Et pour la première fois, il y a des femmes qui se lèvent contre ça dans leur propre pays. Mais pour en revenir aux États-Unis, ce qui est un reportage un peu étonnant d'ailleurs. Il y a une chose en tout cas qui est bien.
C'est la réalité.
Oui,
la codification des relations.
Tout à fait, cette codification des relations. Moi, il y a quelque chose qui me semble bien, c'est de dire aux jeunes que la drogue et l'alcool sont des vrais sujets. Et ça, c'est aujourd'hui, on voit ce qu'il en est avec ce qu'on appelle le binge drinking, avec les filles qui se mettent à boire, ce qui était quand même moins le cas, et qui effectivement deviennent des objets sexuels sans savoir ce qu'elles font, etc. Donc c'est, le signaler me paraît important, mais c'est complètement en dehors du sujet, parce que drogue et alcool, ça a toujours été dangereux et salé. En revanche,
en dehors de quel sujet
je veux dire que drogue et alcool impliquent des comportements qui peuvent être de violence en dehors des rapports hommes-femmes. C'est de toute façon dangereux. Ça peut introduire des comportements qui sont tout à fait inadaptés dans toutes circonstances. Donc voilà, donc c'est pas mal que les facs le mettent sur ce plan-là. En revanche, j'étais en train de dire que les nuances sont absentes de tout ça. Je trouve que tout ça est assez ridicule parce que personne n'a la même perception du harcèlement, la même perception du consentement. Je pense que la drague, c'est... Par exemple, quand il y avait un étudiant qui croyait faire les choses très bien en disant « je suis directe ». Je ne suis pas sûre que les femmes veuillent que les hommes soient directs. Je pense même le contraire. Donc, il était en contradiction avec ce type de rapport. Et juste un mot, j'avais dit... Parce qu'on m'interrogeait à la suite de cet article, et j'avais eu le malheur de dire, sous forme un peu de boutade, « Oh, si mon mari ne m'avait pas un peu harcelée, peut-être que je ne l'aurais pas épousée. » Je plaisantais, mais j'étais en train de penser au temps où, au début, je ne voulais pas, parce que c'était une période de ma vie où, voilà, etc., où une relation s'est tissée, où ça a pris très longtemps, où il a insisté. Où commence le harcèlement, entre guillemets ? Quelle définition donne-t-on du harcèlement ?
Ça a été mal perçu, évidemment, en plein débat, parce qu'on parlait de la libération de la parole des femmes qui avaient été harcelées, agressées et violées.
Mais c'est pas la même définition pour tout le monde.
Là, vous faites allusion à une sphère strictement privée.
Absolument.
Donc, c'était pas la même... Là, c'est plutôt une histoire de diversité de situation que de perception,
d'ailleurs. Pas tellement. Vous avez des femmes qui se sentent harcelées très rapidement et d'autres qui trouvent ça normal. Vous avez une femme, un collègue de bureau l'attendra en bas du bureau, etc. Elle trouvera que
Alors, vous faites partie des signataires de la tribune sur le droit d'importuner qui ont largement, c'est vrai, alimenté les débats.
Je voudrais juste préciser, c'est pas le titre de la tribune. C'est pour une libération d'une autre parole.
Tout à fait. Mais c'est le titre qui a été viral sur Internet et c'est ce qui compte.
Non, c'est le monde qui a choisi.
Ensuite,
c'est le titre qui a été repris, le plus repris. Mais dans la foulée de ces débats, on a eu quelqu'un comme Brigitte Lahaye, ex-star du X, qui déclare qu'on peut jouir lors d'un viol. L'écrivain Catherine Millet qui déclare sur France Culture « Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort ». Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entraînées toutes les deux dans une provocation ou un dérapage généralisé ou pas ?
Il y a quand même deux sujets différents. Les propos de Catherine Millet ont été repris, pour le coup, pour faire le buzz, parce qu'ils datent de décembre, je crois. Et quand on connaît l'œuvre, quand on connaît l'œuvre de Catherine Millet et quand on écoute cette émission, ils sont totalement cohérents. C'est par rapport à... Elle se méfie beaucoup de l'argument du vécu, etc. Et ensuite, Brigitte Lahaye, oui, elle a été ex-icône du X, mais elle fait aussi un travail, elle a travaillé avec les victimes de viol, elle a un équivalent, je ne sais pas si elle est diplômée, enfin bref, elle a une pratique de sexologie très importante et très sérieuse.
On se reconnaît là-dedans ou c'est leur liberté d'expression ?
Non, mais de toute façon, non, on n'a pas à se reconnaître là-dedans, parce que ça, c'est ce que je dis depuis le début de la tribune, on est des femmes indépendantes et chacune parle en leur nom. Moi, personnellement,
au nom de leur liberté d'expression.
Tout à fait,
Quand j'ai signé ce papier, je ne connaissais aucune des signataires.
On va laisser la parole à Ouria Bentouami, qui est en liaison technique avec nous de Toulouse, pour prendre la parole.
Oui, alors justement, je voulais réagir à propos de ce qui a été dit, et notamment autour des propos donc de Brigitte Lahaye. Alors, tout ça m'a semblé effectivement aberrant, au sens où quand même les féministes précisément ont eu à cœur justement de forger cette notion qui est la culture du viol, et de montrer précisément que toutes ces formes de banalisation rhétorique dans les discours, dans les médias, etc., de la réalité du harcèlement, et la conversion du harcèlement en quelque chose qui relèverait d'une séduction prédatrice, qui serait la bonne séduction, avec l'initiative de l'homme, même un peu contrainte, qui serait le signe de la véritable virilité. Et bien tout ça a conduit finalement, encore une fois, je trouve, à déprécier non seulement, encore une fois, la parole des victimes, mais même, je trouve, à dire qu'il y a un peu en elle quelque chose comme une forme de folie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas véritablement, finalement, d'agression, il n'y aurait puisque comme vous le disiez tout à l'heure Sophie de Menton, il y aurait une diversité de perceptions, ce qui est harcèlement pour l'une ne le serait pas pour l'autre. Ben, je trouve que cette forme de, encore une fois, de banalisation, de relativisme dans les violences alors sexuelles, sexistes, machistes, etc., contribue, je trouve, à l'entretien de ce qu'on appelle la culture du viol.
Alors vous restez avec nous, suite du débat, juste après le flash, avec nos quatre invités. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, 7 milliards de voisins, le féminisme devient-il puritain ?
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Le féminisme devient-il puritain? Le débat ne faiblit pas, y compris pendant le flash dans ce studio des 7 milliards de voisins depuis l'affaire Weinstein. La parole des femmes victimes de harcèlement sexuel et de viol s'est libérée, vous le savez, avec les hashtags MeToo ou Balance ton porc en français. Un collectif de 100 femmes a récemment écrit une tribune pour dénoncer ce féminisme qui exprimerait une haine des hommes qu'elle qualifie de néo-puritanisme. Elles défendent la liberté de se faire importuner. Alors, le féminisme en fait-il trop ou pas assez? Où commence la frontière entre la drague, le harcèlement et le viol? Comment protéger le droit et le corps des femmes sans bâillonner la liberté d'expression et de créer? Parce que ça aussi, il faudra en parler, la liberté des artistes, des intellectuels. Débat entre quatre femmes au point de vue différent. Peggy Sastre, philosophe, Sophie de Menton, chef d'entreprise, Michel Rio-Sarcey, historienne, et Ouria Bentouami, philosophe. Michel Rio-Sarcey, vous souhaitiez vous exprimer au moment où le flash nous a coupé en tant qu'historienne par rapport à ce qui avait été dit dans la première partie de l'émission.
Historienne du politique qui essaye de penser l'histoire.
Historienne du genre aussi, surtout.
Historienne du politique, j'insiste, et du genre, mais ça va de pair, qui essaye de penser le passé à partir des questions présentes. Et là, je viens de me rendre compte, ces dernières heures, à quel point la médiatisation ou tout simplement les débats entraînent d'autres débats, d'autres prises de position, et on assiste... J'insiste, à un véritable détournement du politique. Il y a quelques semaines à peine, on venait de révéler de manière massive que le viol était un instrument de guerre, une arme de guerre en Syrie. En même temps,
on le sait depuis longtemps en République démocratique du Congo.
Hein. On le sait depuis longtemps en République démocratique du Congo.
Et on le savait aussi pour l'ex-Yougoslavie.
Pour l'ex-Yougoslavie. Nous allons avoir un débat dans très peu de mois au Liban sur la question. Et paradoxalement, étonnamment, arrive cette liberté sexuelle qui prend des aspects totalement indécents. Donc...
Vous voulez dire que débat depuis l'affaire Harvey Weinstein est futile ?
Non, ce qui me paraît, c'est pas une question futile, c'est ce que j'appelle un détournement presque à la fois conscient et inconscient du politique, alors que c'était vraiment à la une des journaux et tout le monde prenait conscience de cette arme de guerre. Et ce déplacement me semble pas simplement indécent, mais particulairement dramatique.
Est-ce que c'est un déplacement ou un ethnocentrisme, finalement, la presse qui se regarde le nombril sur sa propre société?
Franchement, je n'en sais rien, c'est pas la question. Ce qui me paraît le plus important dans cette affaire, c'est d'essayer de redéfinir, en quelque sorte, ou de revoir ce que les victimes... peuvent ressentir, pas simplement les victimes d'agressions sexuelles, mais les victimes en général. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de difficultés à faire entendre la voix des victimes. Parce que être victime, c'est précisément être objet, et donc non sujet. Et régulièrement, toutes celles et tous ceux qui sont victimes d'agressions ont énormément de difficultés à exprimer justement cette situation. C'est pourquoi... ce mouvement massif, mondial, donne en quelque sorte la parole à des sujets qui pensent et qui réfléchissent sur ce qu'est précisément la situation de gens qui sont considérés comme des objets. Et c'est pourquoi ce débat est un petit peu complexe, parce que, bien sûr, la liberté sexuelle existe, bien sûr, la liberté privée prend toutes les formes sur le plan sexuel, et c'est intitulé... Le féminisme serait-il puritain, me semble déplacé complètement. Ça n'a rien à voir avec le puritanisme.
Oui, vous avez tellement raison que c'est très embêtant de discuter de ce sujet, parce que quand vous faites allusion au viol, arme de guerre, quand vous faites allusion à ces tragédies, on est à milieu, et heureusement, de ce que certaines appellent... le fait d'être importuné. Je veux dire qu'on ne peut pas, il y a des degrés incroyables, il y a des nuances à respecter. Comment voulez-vous discuter d'effectivement de ce type de violence faite aux femmes, qui sont insupportables, l'oppression des femmes dans certains pays, enfin, c'est infini comme sujet, et le fait qu'en France... il y a des femmes qui réagissent, et je pense à Dénonce ton port, je pense à ce site que je trouvais d'ailleurs navrant et pour la dénonciation et pour l'appellation port, et d'autant plus navrant qu'il se trouve que je connais un tout petit peu l'homme dont il était question, qui n'est absolument pas coupable en la matière, qui a porté plainte et qui n'avait rien à voir avec cette dénonciation, qui a effectivement eu des propos alors qu'il était ivre, tout à fait malvenu, une seule fois, dont il s'excusait le lendemain. Donc c'est pour ça, comment voulez-vous comparer ça avec ce à quoi vous faites allusion? Je veux dire, moi, alors je tiens à dire aussi qu'en signant ce texte, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait les propos qu'on a entendus concernant le viol, et que je ne m'y associe évidemment pas. Mais ce qui n'empêche pas que j'étais d'accord avec ce que disait ce texte, qui n'a jamais... Comment est-ce qu'on peut m'accuser de faire l'apologie du viol? Enfin, c'est épouvantable. Et ça n'a pas de sens.
Vous avez le sentiment de vous être retrouvée comme embarquée, finalement, Peggy Sastre?
Embarquée dans une espèce de campagne mêlant mauvaise foi, malhonnêteté et mauvaise analyse, oui.
Est-ce que vous regrettez d'avoir signé ce texte ou pas?
Ah, mais évidemment pas. Je l'ai plus que signé, je l'ai coécrit. Et ce texte avait trois axes relativement clairs, qui étaient d'abord le respect de l'état de droit, ensuite une opposition à la censure artistique, et troisièmement une mise en garde contre la protection des femmes relativement hyperbolique, et ce qui est le sens de la tribune que Samantha Gaymer a fait paraître dans Le Monde pour nous soutenir il y a quelques jours. Donc Samantha Gaymer qui était la jeune fille qui a été violée à 13 ans par Polanski.
Le cinéaste Roman Polanski.
Qui aujourd'hui dit qu'elle lui a pardonné,
hein, pour reprendre ses mots exacts.
Oui, mais c'est pas le sujet principal de cette tribune. C'est justement la mise en garde contre la mise sous cloche des femmes qui en fait les vulnérabilise et en fait. C'est aussi vieux que le monde. Il n'y a pas une meilleure façon d'asservir les gens que leur faire peur et de leur dire que justement ils sont dans une culture du viol. Je veux dire, la France n'est pas une culture du viol.
Elle dit textuellement.
Il faut quand même avoir le sens des nuances, et les mots ont un sens, et la France n'est pas une culture du viol.
Absolument. Quoi. Et elle dit, je reprends ces mots que j'ai devant les yeux, je ne suis pas d'accord avec l'idéologie puritaine qui explique aux femmes que le sexe leur fait violence et qu'il est capté par les hommes, qu'elles se résument à leur vagin d'après des critères que les hommes qui les touchent ont fixés. Je veux dire que. C'est grave, et je ne regrette pas, je réponds à votre question quand même, je ne regrette pas une seconde d'avoir signé ce texte.
Ouria Bentouhabi.
Oui, alors que la France n'est pas ou n'a pas de culture de viol, c'est très intéressant d'entendre cette phrase, parce que souvent précisément, ceux ou celles qui ont une culture du viol sont justement les autres. Et les autres en général, c'est les musulmans, les arabes qui maltraitent leurs femmes, etc. Qu'on a vu justement ressortir tout cet imaginaire fantasmatique sur ces autres musulmans au moment donc de l'affaire de Cologne. Donc moi, ce qui m'a quand même intéressé au moment où cette tribune est sortie, et là je joins ma voix à celle de Femmes en lutte 93 du collectif Moissy, qui disait, mais imaginons la même tribune écrite par 100 femmes noires et arabes. Et tout de suite, ce qui aurait été dit par ces mêmes femmes qui ont signé la tribune, à savoir la tribune des 100, eh bien ça aurait été, mais ce sont là des femmes soumises, qui sont soumises à leur père, à leur frère, etc. Elles protègent leurs hommes. Donc, il y a ce différentiel-là, et moi je trouve qu'il faut prendre en compte quand même la position depuis laquelle on écrit cette tribune, et depuis laquelle finalement on distille un discours idéologique, qui en l'occurrence, moi je le dis très clairement, qui est celui de femmes blanches, bourgeoises, hétérosexuelles.
Vous ignorez
Vous êtes victime d'un biais de sélection.
Est-ce que c'est la même chose d'être harcelé à Hollywood que dans les quartiers sensibles?
C'est ça que vous voulez dire.
Exactement. C'est-à-dire que la question se pose aussi de savoir quand on dénonce justement l'idée qu'il y aurait.
Aujourd'hui, pour parler, vous montrez sa carte d'ADN.
Mais alors. Premièrement, je m'explique sur ce que j'entends justement
non,
par le sujet de
tribunal. Non, mais regardez cette intimidation identitaire, identitariste, insupportable. Je suis désolée.
Laissons terminer.
Pourquoi alors, si vous êtes justement soucieux de cette liberté sexuelle et notamment soucieux de protéger les hommes dont vous considérez qu'ils ont la liberté d'importuner, pourquoi ne pas alors avoir pris la plume de la même façon quand, par exemple, il y a eu ce projet de loi sur le harcèlement de rue? Parce que, évidemment, les effets ne sont pas les mêmes, les personnes visées ne sont pas les mêmes. Et quand pour le harcèlement de rue, qui occupe majoritairement le rue,
je voudrais vous poser une question, si vous voulez bien.
Quartier populaire.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il existe réellement un choc des cultures et que ce choc des cultures est très difficile à appréhender, que effectivement il y a une culture de femmes par exemple, d'hommes par exemple, qui pensent que le corps de la femme est un objet de désir et qu'il convient de le cacher, qu'elles sont responsables de ce désir. Est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas confrontés à un choc des cultures?
C'est pas ce que pensait Harvey Weinstein, hein, ceci dit.
Non,
pas du
bien
tout.
Sûr.
Donc
non,
ça,
non,
attends, ça ne l'a pas empêché de faire l'objet d'une centaine de plaintes.
Oui.
Donc
on mélange pas tout. Alors attendez, pour Harvey Weinstein, je voudrais dire une chose. J'ai entendu une jeune actrice qui disait « C'est absolument honteux, il voulait pour me donner le rôle que je couche avec lui. Et j'ai couché avec lui pendant 3 mois et j'ai pas eu le rôle. » Et la terre entière a plaint cette jeune actrice. Alors qu'il y en a une autre qui a dit « Bah excusez-moi, il m'a proposé la même chose, j'ai dit non, j'ai pas eu le rôle, je vais pas plus mal. » Je veux dire, il y a aussi à un moment donné, faire la part des choses et ne pas ridiculiser les situations. Mais j'ai une vraie question sur ce choc des cultures que nous vivons également en France.
Ouria Bentouami, sur l'affaire Harvey Weinstein, est-ce que vous souhaitez répondre? Parce que là, évidemment, ça pourrait soulever un tollé. Il y a évidemment, bon, la justice n'a pas encore inculpé, et peut-être ne le fera-t-elle pas, d'ailleurs, on n'en sait rien, Harvey Weinstein. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, il fait l'objet de centaines de femmes, de plaintes de femmes. Vous souhaitez répondre là-dessus?
Oui, tout à fait. Il y a une réponse qui a été donnée, j'allais dire, par les mêmes personnes qui appartiennent à l'industrie comme ça, culturelle, médiatique, du divertissement, de l'entertainment américain, et qui est la campagne de ces femmes dont fait partie notamment Oprah Winfrey, et qui est Time's Up. C'est-à-dire le temps de ces hommes puissants est révolu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement ces femmes, qui sont, et notamment donc une femme, en l'occurrence une femme noire, utilisent son privilège de femme qui a réussi dans cette industrie-là pour précisément alerter et puis pour soutenir toutes les voix des femmes qui, elles, n'ont pas une parole autorisée médiatiquement comme la sienne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce mouvement-là, justement, de solidarité entre des femmes, alors en l'occurrence qui sont, vous voyez, bourgeoises, parce qu'elles sont des grandes actrices ou alors de grandes figures médiatiques, avec les femmes, disons, plus subalternes ou voilà, les maquilleuses, etc., qui n'ont pas... Et ce qui n'est pas, justement, le cas de Catherine Deneuve. C'est-à-dire qu'on a véritablement, il y a un fossé, là, entre ce qui se passe aux États-Unis là-dessus, dans l'industrie, l'industrie médiatique, si on peut dire, de communication culturelle, etc., et ce qui se passe en France. C'est-à-dire que, véritablement, en France, c'est à contre-courant.
Je voudrais connaître votre point de vue sur un texte écrit par le philosophe français Raphaël Entoven, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu les hommes dans cette affaire. Il faut dire que le terrain est miné. Donc il n'y a que des coups à prendre.
Inaudible,
hein. Raphaël Entoven écrit dans le Figaro « Je combats les porcs autant que la délation et le puritanisme. Est-ce contradictoire de saluer la libération de la parole tout en redoutant que cette libération ne devienne, par tentation d'unanimisme, un enfermement ?»
Très bien dit.
Sous-entendu la dictature des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Michel Rio-Sarcé.
La dictature des réseaux sociaux, elle est partout, elle n'est pas simplement sur cette question-là, mais je voudrais simplement mettre l'accent sur ce que vient de dire Ouria à propos de la fin de la dictature de l'homme puissant. Il faut comprendre que cette fin de dictature de l'homme puissant, c'est un processus. Ça va sans doute revenir à les traditions hiérarchiques, ne nous illusionnons pas, mais à condition, Ouria, et c'est à vous que je m'adresse, que cette réflexion puisse être partagée par tous. La France, elle n'est pas exceptionnelle. Il y a partout, justement, ces expressions d'hommes puissants. Et donc, il nous importe, nous, féministes, politiques, celles qui sont un petit peu conscientes des réalités à l'échelle, pas simplement privée, mais à l'échelle publique et à l'échelle, si je puis dire, mondiale, voir ce qui se passe, il nous importe de ne rien masquer. C'est-à-dire que cette puissance, vous avez parfaitement raison de différencier ce qui est la tribune en question, la position de Catherine Deneuve, etc., etc., avec ce qui s'est passé, par exemple, au moment des événements de Cologne, cette disparité qui est particulièrement dommageable. Mais en même temps, il nous importe, à nous, d'avoir une réflexion critique sur toutes ces manifestations de puissance et de domination. C'est pourquoi j'insiste, le mouvement est parti de pays comme l'Inde et pas simplement des États-Unis. Et cette focalisation sur les milieux artistiques qui brouille les cartes, le besoin de créativité dans tous les domaines, personne ne remet cela en cause. Qui oserait mettre en cause, me semble-t-il, un tableau de Modigliani?
Mais c'est le cas.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce sont des éléments très, très parcellaires. Ce qui me semble le plus important, c'est précisément d'avoir cette conscience politique, collective, qui précisément met en cause la puissance qui s'exprime dans des domaines et a des effets particulièrement dommageables.
Est-ce qu'il faut continuer de diffuser en salle les films de Woody Allen, quelle que soit l'histoire qu'il raconte d'ailleurs, parce que lui-même fait l'objet d'affaires? On pense aussi aux polémiques sur la diffusion des films de Roman Polanski, puisque vous parlez de la sphère artistique et intellectuelle, Michel Rioux-Sarcé.
Mais ça n'a aucun sens d'interdire des films. Quelque interdiction que ce soit d'ailleurs n'a jamais eu le moindre effet. Donc, c'est pas de ça dont il s'agit. Les questions de loi, de réglementation, n'empêchent en rien la domination de s'exprimer. Même du point de vue politique, on a fait la loi sur la parité, il n'empêche que la dimension n'est absolument pas prise en compte par les partis politiques. Donc, cessons de s'illusionner dans la réglementation. C'est beaucoup plus fondamental. Et essayons de trouver cette réflexion critique bien plus large sur la question de l'émancipation et donc la critique de la domination.
Sans risque de bâillonner une quelconque liberté d'expression artistique ou intellectuelle. Pour
oui,
vous, c'est pas le sujet.
Oui, mais il y a des tentatives qui sont contre-productives. Ouais. Quand on voit, excusez-moi, que Blanche-Neige, il faut changer la fin parce que le baiser volé... Non mais d'accord, c'est ridicule. Ça. Le ridicule est très embêtant. Quand vous voyez que Carmen, récemment, a changé l'opéra, on a changé la fin pour qu'il était épouvantable d'applaudir sur le meurtre d'une femme, on frôle le ridicule. Et moi, je pense que cette action ridicule, j'insiste, de certaines féministes, nuit finalement à la véritable cause que vous exprimez, qui est il faut dominer ce sujet dans le monde entier. Une domination, effectivement, réappropriation du corps des femmes est quelque chose de très important. Mais je pense que le féminisme va à l'encontre de ça.
Peggy Sastre, vous publiez cette semaine un livre qui s'appelle « Comment l'amour empoisonne les femmes, du surinvestissement sentimental et des moyens d'y remédier ». Alors, on est très éloigné des affaires de viol, on est bien d'accord, mais vous creusez un peu là où ça fait mal sur un sujet que connaissent bien les femmes, qui est un sujet finalement assez tabou, encore une fois, bien moins grave que les agressions sexuelles. C'est ce que vous appelez le boulet amoureux, ou en tout cas le dépit amoureux qui touche...
La dépendance affective.
Hein, la dépendance affective, qui est bien connue des psychiatres. Pourquoi alors, c'est un livre que vous avez écrit avant l'affaire Weinstein, mais est-ce que ce questionnement-là, il va avoir un écho particulier en ce moment?
Bah, y a au moins un fil à tirer avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai tout un développement sur, justement, pour reprendre ce que Sophie de Menton disait, là où le féminisme, un féminisme actuel est contre-productif, c'est-à-dire que cette vulnérabilisation des femmes, en fait, nuit à leur émancipation, à leur... c'est un processus psychologique assez connu, c'est-à-dire que...
Quand vous dites vulnérabilisation des femmes,
on
c'est
leur fait
la
peur,
parole
quoi.
De femmes victimes.
On leur fait peur, on leur fait peur, tous les discours, voilà, je vais revenir sur la culture du viol, on gonfle les chiffres d'agressions sexuelles, on met tout dans le même panier, sans aucune hiérarchie, alors que c'est quand même le principe du droit, la hiérarchie des peines et la hiérarchie des faits. Je veux dire,
Et ça, c'est justement, c'est des débats qui sont assez anciens. Et dans les années 90, on a eu Camille Paglia comme ça, qui s'est opposée à ce mouvement de protection hyperbolique des femmes et qui disait que si elle a le choix entre avoir un couvre-feu et sortir dans la rue se faire violer, elle a dit clairement, mais laissez-nous nous faire violer, quoi. Et c'est la fin de notre tribune.
Ça
ne va pas sans risque ni responsabilité.
Aller jusqu'à ces provocations. Les hommes disent souvent que telle ou telle fille n'est pas pour eux parce qu'en gros, elle se fait des nœuds au cerveau. En clair, c'est une emmerdeuse. Est-ce que les femmes doivent cesser d'attendre quoi que ce soit en amour pour être définitivement libres? C'est la question que vous posez ou pas?
À peu près. Je pense que je ne l'aurais pas, je l'aurais pas formulé comme ça.
Chez les hommes, ouais. C'est souvent formulé comme ça.
Je pense que c'est, on est dans la caricature aussi, mais
oui, et puis j'adore les emmerdeuses.
Ouais, en plus, ouais, oui, ça c'est clair. Non, ce qui et après, je voudrais aussi préciser que je ne donne pas de leçons à personne, je ne juge personne, je donne des outils aux individus. Et des outils que je considère émancipatoires, après libre chacun de s'en saisir ou pas. Oui, c'est principalement un constat, c'est une explication par des outils qui sont assez rares dans le champ intellectuel actuel, donc c'est-à-dire le champ intellectuel actuel, en gros, passage par la biologie et par la psychologie, etc. Tout ça pour dire quoi, j'en sais rien.
Mais est-ce que, alors finalement, depuis le démarrage de ces débats, depuis l'affaire Weinstein, qu'est-ce qui va en rester? Vous avez les unes et les autres.
Mais moi, je crains qu'il en reste en fait, qu'il en sorte en fait une énième panique morale, comme on a observé depuis.
Panique morale, c'est-à-dire?
En fait, le gonflement.
Retour en arrière?
Non. Par exemple, ce qu'on a observé dans les années 90 avec tout ce qu'il y a eu autour de la pédophilie, avec des faux procès. On disait que plein de profs avaient fait des messes noires avec des viols de bébés, etc. Ça s'est révélé faux, en fait. Et ça s'est révélé, justement, comme on est sorti de l'état de droit et on s'est fondé sur des logiques, justement, de racontards, de ragots, de réseaux, de réputation, etc.
Moi, j'ai même peur qu'on ait un retour vers l'état de droit. Parce que oui, la grande tentation de l'État français, par exemple, il y a un scandale, un buzz, quelle chance, on légifère. Et donc, je pense que c'est absolument contre-productif. Je crois aussi qu'il y a quelque chose qu'il faudrait rétablir.
Droit exactement.
Non, je dis qu'on retourne à où on aime
une
beaucoup légiférer.
Une forme d'ordre moral, finalement.
Oui, on aime beaucoup légiférer. Cette année, on a déjà fait l'année de la femme.
Sur le viol, en l'occurrence.
Il n'y a pas que le viol. Attendez. Quand vous mettez des flics dans la rue, quand vous envisagez, le président de la République, que j'apprécie par ailleurs, a quand même immédiatement en réaction à ça, dit je vais peut-être mettre une police de proximité dans la rue et vous vous faites draguer ou siffler de façon qui peut être très désagréable, pourquoi pas, par un homme, vous pouvez lui faire mettre une amende. Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'un monde comme ça. Je trouve que ça ne change rien. Oui, une guerre des sexes. Et puis aussi, il y a un point qu'il faudrait quand même dire, et loin de moi l'idée de dire que la parole des femmes ne doit pas se libérer, qu'elles n'ont pas raison quand elles dénoncent les choses. Mais il y a aussi énormément de femmes qui abusent de ce pouvoir. Et il n'y a pas d'un côté des hommes qui mentent tout le temps et des femmes qui sont tout le temps dans la vérité. Il y a beaucoup d'hommes.
De toute façon, c'était un peu l'objet de notre tribune.
Oui,
c'était justement sortir de la question homme-femme, voilà. et de souligner un problème civilisationnel.
Réellement, l'ordre moral n'est absolument pas prêt de revenir dans la mesure où nous sommes totalement aliénés à la publicité. Faites confiance aux publicitaires pour que l'ordre moral ne revienne pas, hélas.
Sous-entendu à l'économie néolibérale,
bien sûr.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'elle joue beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une publicité qui consistait à mettre des hommes partout où avant il y avait des femmes. Donc effectivement, il y a un changement de rôle dans les tâches ménagères, etc. Donc au contraire, la publicité va exploiter ça, et je ne suis pas sûre.
Et c'est pas ce que vous souhaitez, finalement.
Pas forcément.
Ouria Bentouami.
Oui, alors quand on dit effectivement la domination masculine est un problème civilisationnel, mais justement de toutes les civilisations.
enfin de beaucoup de civilisations et pas simplement donc de celles des autres. Donc c'est pourquoi là, je réponds à ce que me disait au commentaire tout à l'heure de Michel Rivaud-Sarcey. Effectivement, et bien sûr que c'est parti d'Inde et c'est ça qui est intéressant de voir. Mais moi, la seule chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que souvent on dit voilà, en France, il n'y a pas de domination masculine et puis c'est la domination masculine est rejetée du côté voilà des autres civilisations, des autres cultures, etc. Et donc il y aurait un choc de culture. Donc c'est pour remettre en cause cela et pour dire qu'au contraire, bien qu'elle s'exprime de manière spécifique, évidemment, dans chaque culture, il y a bien donc des formes de domination masculine et nous n'en sommes pas exemptes ici. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui de voir avec la parole de ces femmes.
Donc nous sommes tous égaux devant ça, il n'y a aucune différence culturelle, rien du tout.
J'ai dit qu'il peut y avoir des spécificités évidemment qui sont historiques, qui sont politiques.
Vous appelez ça spécificité quand on ne se fait pas soigner ?
Ce n'est pas le même type de harcèlement effectivement pour que les femmes subissent en Inde dans les bus, etc. Et le type de harcèlement que l'on a ici. Je ne suis pas en train de tout lisser et de dire qu'on subit une sorte de patriarcat, domination masculine universelle. Il y a évidemment des réseaux, des conjonctures, des coordonnées politiques qui sont différentes.
Toutes les Michel civilisations Rios, ont oui. été fondées sur la domination du plus faible et en particulier avec la naturalisation des femmes, c'est-à-dire la construction de l'identité au féminin s'est faite depuis très très longtemps, sur la construction de l'infériorité des femmes et leur réduction à la nature. C'est bien de ça dont il est question aujourd'hui et qui explose partout dans le monde. Et c'est ce qui change. Là, vraiment, on est en train d'assister à une véritable révolution. Surtout, mais surtout, là, c'est un appel. Ne détournez pas cette question-là en une lutte contre le puritanisme. Mon Dieu, s'il vous plaît, sachons raison garder et essayons de réfléchir à distance de cette question.
Suivez la bonne trajectoire et non pas la mauvaise.
Merci à vous toutes, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion. Quel lapsus révélateur. Peggy Sastre, philosophe, vous publiez cette semaine « Comment l'amour empoisonne les femmes ». Sophie de Menton, chef d'entreprise. Michel Rivaud-Sarcey, historienne, vous avez publié « Le procès de la liberté » aux éditions La Découverte. Et merci à vous, Bentouami, en liaison technique avec nous de Toulouse. Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac. On se retrouve demain pour 7 milliards de voisins, journée mondiale du sport féminin. Et on s'interrogera sur les sports mixtes. Il n'y en a pas beaucoup, vous les découvrirez.